winds 120 knots to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
19h, c'est l'heure. Plusieurs m'ont écrit dans le Messenger de la page Radio X-Files pour savoir si c'était commencé cette saison-là. Oui, c'est commencé. Rendez-vous quotidien maintenant depuis hier à 19h, de 19h à 20h, avec l'unique et l'incroyable Christian Page. Bonsoir.
Bonsoir, Camille.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien. Oui, tu as tout à fait raison. Deuxième émission de cette nouvelle saison. Notre première émission du mardi. Et comme nous l'avons expliqué hier, les émissions cette année seront thématisées, puisqu'on est là 4 soirs semaine, en fait 5 soirs. Mais les vendredis sont consacrés à un best-of de ce qui aura été fait en début de semaine. Donc, du lundi au jeudi, on est live avec des sujets nouveaux. Les lundis, comme on l'a mentionné hier, sont consacrés au phénomène des ovnis. Les mardis seront consacrés aux fantômes, perceptions extrasensorielles. Et donc, ce sera notre thématique de ce soir, donc ouais, c'est phénomène par...
Oui? J'essayais, est-ce que c'est phénomène surnaturel, invisible, pumpkin, spice, latte, PSI, t'as écrit sur la feuille.
Effectivement, c'est perception extra... En fait, psy, parce que au début, lorsque les phénomènes paranormaux ont commencé à être étudiés, on appelait ça la parapsychologie. Et c'est vrai que c'est resté, on a essayé d'imposer un nouveau terme, un peu comme les ovnis, qui aujourd'hui on devrait appeler des PAN, si on reprend la définition maintenant que donne le Pentagone, hein, les phénomènes aériens non identifiés. Et c'est vrai que phénomène aérien non identifié est beaucoup moins limitatif que l'était le mot OVNI, parce que le mot OVNI, c'est objet volant non identifié. Or, 90% des fois, les gens ne rapportent pas des objets, ils rapportent des phénomènes aériens, principalement des lumières. Mais une lumière n'est pas forcément un objet. Donc, c'est vrai que le phénomène, si on utilise l'expression phénomène aérien non identifié, on est beaucoup moins limitatif. Lorsque les phénomènes de paranormaux ont commencé à être étudiés, hein, les phénomènes paranormaux font partie de l'évolution de l'humanité. Ils sont là même depuis la préhistoire. Hein. Quand on regarde sur des sites funéraires qui datent de la préhistoire, du néolithique par exemple ou du paléolithique, on voit que les gens avaient des rituels funéraires. Ils entouraient leurs morts avec des objets qui avaient été importants dans leur vie. Okay. On les plaçait dans des positions. Donc, on voit que déjà très rapidement, il va apparaître cette croyance dans une forme d'au-delà, d'une forme de surnaturel. C'est vrai qu'à cette époque, les dieux avaient des noms comme vent, pluie et soleil. Aujourd'hui, oui, on a changé ça. Mais tout ce qui était inexpliqué ou inexplicable pour eux devenait des forces surnaturelles. Et cette croyance dans ces forces invisibles a commencé très, très tôt à faire partie de la culture humaine. Moi-même, d'ailleurs, je le dis souvent, les phénomènes paranormaux sont trop importants dans l'histoire de l'évolution humaine pour laisser n'importe qui en dire n'importe quoi. C'est pourquoi je m'intéresse de si près à ces phénomènes. Donc, au départ, lorsque, à partir, je te dirais, dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec l'arrivée des phénomènes de tables tournantes, communication avec l'au-delà, du jour au lendemain, des gens commençaient à se déclarer en contact avec les esprits. Et là, donc, on se réunissait. Hein, c'est devenu presque une activité bourgeoise. On se réunissait dans des salons avec des lumières tamisées. Et là, des médiums entraient en contact avec des revenants. Et très rapidement, c'était à cette époque-là ce qu'on appelait des manifestations, des communications spirites avec effet physique. Alors, c'était pas simplement quelqu'un, un médium qui disait « Oui, je suis en contact avec ton père et ton père me dit ceci ou cela. » Dans bien des cas, il y avait des manifestations physiques, donc des tables qui sautillaient au milieu du salon, qui se soulevaient, des meubles qui se renversaient, des bougies qui étaient soufflées. Donc, on avait toutes sortes de phénomènes physiques et très rapidement, les scientifiques de cette époque ont commencé à se dire, mais est-ce que l'on peut documenter ces phénomènes de manière rigoureuse? C'est sûr que c'est difficile de se prononcer sur l'existence ou non des revenants, mais à tout le moins, s'il y avait des manifestations physiques, est-ce qu'on pouvait les documenter? Et au départ, ça peut paraître curieux, mais c'est vrai que la parapsychologie est née d'abord du mouvement spirit. Ce sont les scientifiques qui ont voulu documenter ces phénomènes et assez rapidement, il y a un fossé qui s'est creusé entre le mouvement spirit, hein, en disant « oui, mais bon, les esprits se manifestent pas parce que vous êtes sceptiques, vous êtes critiques ». Bon, on entend encore ça aujourd'hui. Hein.
Oui.
Les gens disent « ça se produit pas parce qu'il y a un sceptique dans la place ».
Vous avez pas l'énergie.
Bon,
là,
vous avez pas l'énergie, pas. Vous avez une énergie négative, c'est pour ça que c'est pas bon. Donc, alors, on avait le même discours à la fin du 19e siècle. Donc, quand les scientifiques arrivaient sur place... On respectait les demandes des spirites. Hein, les spirites disaient, il faut que la lumière soit tamisée. Ben, il n'y avait pas de problème. On avait des appareils. On avait des appareils photo qui étaient capables de prendre des photos dans l'obscurité ou qui étaient capables de prendre une photo avec seulement le déclenchement d'un flash.
Oui.
Donc, à ce moment-là, la pièce était dans l'obscurité et le médium ignorait à quel moment la photo serait prise. Donc, ce n'était qu'un flash. Et évidemment, cette façon de faire a mis à jour de très nombreuses fraude. Et peu à peu, les scientifiques se sont désintéressés du mouvement spirit. Ils se sont pas prononcés en faveur ou non de l'existence de l'au-delà, mais ces soi-disant communications avec l'au-delà, avec phénomènes physiques, étaient tellement souvent truquées, où on a dénoncé tellement de manipulations et de fraudes que peu à peu, les scientifiques se sont désintéressés et ont commencé plutôt à s'intéresser à est-ce qu'il est possible? Est-ce que les médiums, s'il est vrai qu'ils communiquent avec l'au-delà, est-ce que les médiums ont des pouvoirs particuliers qui les différencient des autres individus? Et peu à peu, on a élargi ça parce que dans le contexte de cette nouvelle recherche qui s'amorçait, les gens avaient toutes sortes d'expériences à raconter. On n'avait pas seulement « oui, j'ai communiqué avec un défunt ». Des gens racontaient en disant à des chercheurs « c'est peut-être pas lié aux fantômes, mais par exemple, lorsque mon père est décédé, j'ai senti l'odeur ou sa présence alors que j'ignorais qu'il était décédé. » Et il est décédé de manière soudaine, hein, c'est-à-dire que j'étais chez moi et à un moment donné, j'ai senti une odeur, l'odeur de la pipe, par exemple, de mon grand père ou de mon père. Et à ce moment-là, bon, mon père, la dernière fois que je l'avais vu, quelques semaines plus tôt, puis là, on est à la fin du 19e siècle. Donc, quelques semaines plus tôt, je l'ai vu, il allait bien. Et voilà que le lendemain ou le surlendemain, je reçois un télégramme. Et dans le télégramme, on me dit, ton père est décédé il y a 2 jours, au milieu de la nuit. Or, c'est à ce moment-là que je me suis réveillé, que j'ai senti cette odeur. Donc, on avait toute une série d'anecdotes semblables qui étaient liées un peu avec l'univers de l'invisible, mais qui n'étaient pas forcément des communications directes avec l'au-delà. Et là, ces anecdotes ont commencé de plus en plus à intéresser les scientifiques et on a vu apparaître une nouvelle branche de recherche marginale, avouons-le, qui était la parapsychologie. C'est assez amusant parce que je dis marginal, mais j'ai l'impression qu'à une certaine époque, et principalement au tournant entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, on avait plein de gens qui appartenaient à une certaine élite scientifique qui s'intéressaient aux phénomènes paranormaux. Et à un moment donné, on dirait que les phénomènes paranormaux, peut-être avec la presse et peut-être avec la multiplication des fraudes et des manipulations, les phénomènes paranormaux ont commencé à avoir, entre guillemets, une mauvaise presse.
Mm-hmm.
Et peu à peu, cette élite scientifique qui s'intéressait à ces phénomènes ont commencé eux-mêmes à être marginalisés, ostracisés dans leur milieu et de moins en moins de ces gens-là s'affichaient publiquement en disant « je suis parapsychologue ». Mais il faut dire qu'à la fin du 19e, début du 20e siècle, on avait des gens, des prix Nobel, des gens qui étaient très très réputés dans leur domaine de recherche, Flammarion par exemple, ces gens-là étaient reconnus dans leur domaine scientifique et ils s'affichaient ouvertement comme étant très intéressés par ces phénomènes. À l'époque, le nom...
Je te pose une question en parallèle,
oui,
Christian,
oui,
parce que ça me trotte dans la tête depuis tantôt. Là. Est-ce qu'on remonte à une période aussi antique pour les planches de Ouija? Est-ce que c'était un outil pour les parapsychologues, ça?
En fait, on a des versions de... Bon, on avait des oracles dans l'ancienne Grèce antique, tout ça, donc des moyens de communiquer avec les dieux ou avec l'invisible.
Okay.
Mais si on regarde dans une histoire plus proche, c'est vrai que le Ouija, tel qu'on le connaît, cette planchette de communication, a été développée dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Okay.
Elle est apparue avec ce mouvement spirit, parce que bon, les gens se réunissaient autour des tables et on disait, bon, esprit, qui es-tu? Donne un coup pour oui, un coup pour non. Puis là, on déplaît toutes les lettres de l'alphabet puis on attendait qu'il y ait un coup ou deux. Ben, tu comprends, si le gars s'appelait Zéphirin, ça faisait long pour épeler le nom. Là. Donc, on s'est trouvé des outils pour améliorer, faciliter ces communications. Et là, on va voir apparaître différents modèles modèle assez archaïque, mais ce qui va devenir éventuellement notre planche Ouija. Et la planche Ouija, telle qu'on le connaît aujourd'hui, va être commercialisée aux alentours de 1890 et elle n'a à peu près pas changé. Okay. Les matériaux ont changé à l'époque parce que le plastique n'existait pas, la planchette était en bois. Aujourd'hui, c'est un peu un collant sur une planche de contreplaqué avec un mobile en plastique, alors qu'à l'époque, le mobile était en bois avec des petites roulettes en dessous. Donc, il y a eu une évolution à cause des nouveaux matériaux, mais la planchette n'a en elle-même, elle n'a à peu près pas changé. Mais pour répondre à ta question, puis là, j'ai fait un grand détour, mais c'est vrai qu'au début, on appelait parapsychologie l'étude de ces phénomènes mystérieux, étranges et bizarres. Mais à partir des années 60, 1970, il y a plusieurs chercheurs qui se sont dit « parapsychologie est peut-être aussi un peu limitatif ». Parce que « parapsychologie » veut dire « à côté de la psychologie ». Mais rien ne prouve que ces phénomènes-là soient liés à la psychologie des gens qui vivent les expériences. Le fait de voir un fantôme, si fantôme il y a, n'est peut-être pas lié à ta psychologie, c'est peut-être un véritable phénomène physique. Donc, le fait qu'on le liait à la psychologie, il y avait une espèce de malaise lorsqu'on utilisait le mot parapsychologie. Or, des scientifiques, et en particulier un chercheur très important, un pionnier de la parapsychologie au Québec, Louis Bélanger, qui a été mon mentor dans les années 80 à l'université. Louis Bélanger, que l'on considère un peu comme le père de la parapsychologie québécoise, lui et d'autres, avaient proposé le mot psylogie, P-S-I, hein, qui voulait le psy, qui est la 23e lettre de l'alphabet grec, par laquelle on utilisait déjà ce symbole-là pour désigner l'ensemble des phénomènes paranormaux. C'est donc la lettre psy, donc on appelait psylogie. Donc, le nom de la lettre grecque associée à logie, qui voulait dire l'étude du paranormal, et pas nécessairement une étude de phénomènes à côté de la psychologie. Donc, en fait, aujourd'hui, si on veut rendre honneur aux phénomènes qui sont enquêtés et étudiés, on devrait utiliser l'expression psylogie à partir de psy, P-S-I, comme je l'ai mentionné, 23e lettre de l'alphabet grec par laquelle on désigne les phénomènes paranormaux. C'est un symbole. Les gens qui nous écoutent ont probablement, s'ils se sont intéressés le moindrement aux phénomènes paranormaux et à la parapsychologie, ils ont probablement vu ce symbole et probablement que tu l'as vu aussi, Camille. Ça ressemble un peu à un trident, donc comme une espèce de fourche à trois branches. Et dès qu'on parle de parapsychologie, on voit ce symbole-là. C'est le symbole de la lettre psy. Donc, on a proposé psylogie. Donc, mais le terme, on a tellement utilisé longtemps, pendant des décennies, l'expression parapsychologie. Et comme il y avait des associations qui étaient nées à cette époque-là, hein, la plus vieille société de recherche en parapsychologie, c'est la Society for Psychical Research de Londres. On utilisait l'expression parapsychologie. Il y a eu l'American Society for Psychical Research qui est née également au tournant du 20e siècle. Et ensuite, un peu plus tardivement, la Parapsychology Foundation aux États-Unis. Donc, ce sont des organismes très sérieux qui sont composés d'une espèce d'élite scientifique, mais leurs travaux ont toujours été marqués ou sous l'étiquette de parapsychologie. Donc, même si on a proposé un nouveau terme, qui est la psylogie, l'expression parapsychologie est restée dominante, un peu comme aujourd'hui, même si on nous propose le PAN, les phénomènes aériens non identifiés, j'ai bien l'impression qu'il va falloir encore de nombreuses générations avant qu'on enlève l'expression OVNI, qui est devenue tellement une expression quotidienne, une expression domestique. Ah, oh, des OVNI, hein, c'est partout, c'est les objets volants non identifiés, mais ça nous sert également à désigner des gens un peu étranges. Ah oui, ça, c'est comme un OVNI en politique. Si on parle, par exemple, d'un politicien avec des idées un peu bizarroïdes, on dira, ça, c'est un ovni de la politique. Donc, c'est une expression qui est devenue quotidienne, qu'on utilise à toutes les sauces. Et parapsychologie, ben, c'est entré un peu dans les mœurs, cette expression. Mais psylogie, pour répondre à ta question, c'est un très, très long détour, je sais. J'ai tendance à faire ça, des longs détours.
Ah, puis c'est correct, mais on plonge tranquillement dans la matière.
On plonge dans l'histoire de ça, parce que l'histoire, elle est fantastique, l'histoire de la parapsychologie. Et Renaud Évrard, qu'on a déjà reçu à l'émission des radios X-Files lorsque c'était les vendredis. Renaud est le président de la Society for la Parapsychological Society Foundation. Et à un moment donné, il a écrit un ouvrage sur l'histoire de la parapsychologie. Et j'ai bien l'intention pour cette nouvelle saison, à un moment donné, d'inviter Renaud Évrard pour qu'il nous parle de l'histoire de la parapsychologie, comment on est passé du mouvement spirit à la recherche en parapsychologie expérimentale en laboratoire. C'est une évolution qui est fantastique. Mais on comprend bien que c'est un lexique, en fait, la façon dont on utilise les mots, ce qu'ils désignent et l'acceptation du mot dans le langage populaire. Donc, psylogie, non, c'est pas lié c'est pas un mot valise, ce n'est pas non plus un acronyme pour quelque chose, c'est réellement psy qui veut dire qui est le nom de la 23e lettre de l'alphabet grec par laquelle on regroupe en fait le symbole avec lequel on désigne l'ensemble des phénomènes paranormaux.
Super!
Donc on va parler, nos émissions du mardi seront consacrées à ces phénomènes. On y va dans le très très large. Hein. Quand je parle ici de phénomènes psychologiques ou parapsychologiques, ça inclut ce qui a intéressé les chercheurs à l'origine, donc ces phénomènes de manifestation de l'au-delà, donc les fantômes, les hantises. On va parler ensuite de ce qui a intéressé davantage la parapsychologie expérimentale, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire la clairvoyance, la télékinésie, la psychokinésie, donc tous ces phénomènes, les poltergeists, donc tout l'ensemble de ces phénomènes vont faire l'objet de notre canevas de discussion au cours de ces émissions du mardi qui seront essentiellement consacrées à ce type de phénomène.
Et dans la deuxième partie de l'émission ce soir, on va parler probablement du plus connu des poltergeists à cause du cinéma des années 80.
Un des plus méconnus.
OK. Hein?
Et ça, c'est très intéressant. Il y a eu un moment dans l'histoire d'Hollywood où les réalisateurs, les diffuseurs ont compris que mettre l'expression basée sur une histoire vraie, c'était vendeur.
Je plaide coupable.
Et on est tous comme ça, c'est-à-dire on voit un film au cinéma puis on dit oh, d'après une histoire vraie. On sait pas dans quelle mesure il y a du vrai dans le film.
Ouais.
Ça se peut qu'il y ait 2% de vrai et le reste ne soit qu'une pure fiction. Mais il y a un attrait pour les films qui sont présentés, commercialisés avec l'expression d'après une histoire vraie. Et pourtant, dans l'histoire du cinéma des années 60-70, là, on pourrait bien sûr remonter aux années 20, mais si on prend là, ma génération, ta génération, puis peut-être la génération de nos parents, donc les générations des années 60, 70 et 80, il y a plein de films, et on parle ici de films d'horreur, qui ont sorti au cinéma, qui étaient basés sur des histoires vraies, mais Hollywood n'avait pas encore compris ou ne capitalisait pas trop sur l'expression d'après une histoire vraie. Prenons par exemple le film L'Exorciste,
un film
culte sorti en 1973. D'ailleurs, il est sorti le 26 décembre 1973. Ça, c'était un coup de marketing tout à fait extraordinaire parce qu'on se replace dans le contexte de l'Amérique de l'époque, une Amérique excessivement chrétienne, catholique, aux États-Unis. On est le lendemain de Noël, donc partout dans les maisons, on a des petits Jésus, des crèches. On est à l'église, on chante des cantiques de Noël, et le 26 décembre, au cinéma, sur des écrans géants, on entend la jeune Regan McNeil qui dit des obscénités, des horreurs comme oh, « cette putain est à moi! » Écoute, on est...
C'est vrai que ça déclenchait avec le temps.
On est dans un contexte, on s'attend pas à ça. Là, on s'attend à chanter un minuit chrétien, un petit Jésus dans nos campagnes. Et tout d'un coup, on voit ces images-là excessivement crues. Hein. On se rappelle tous la scène où la jeune Regan McNeil se masturbe avec un crucifix. Écoute, même la scène a été un peu... on a recadré la scène pour qu'elle soit moins violente au cinéma. Il y a des trucs qui sont tout à fait épouvantables. Quand elle dit au curé « ta mère est en enfer et elle suce des queues », on s'attend pas à entendre ce genre de truc-là. Là. On n'est pas dans le film porno, c'est vraiment un film d'horreur, mais on n'avait jamais vu le diable de cette manière-là.
On est allé dans l'obscène à l'extrême, là.
Voilà, et on est au lendemain de Noël, et donc, c'est, bien sûr, le film va avoir un énorme impact sur la psychologie des gens de l'époque. Mais le film L'Exorciste de 1973, il est basé sur un roman éponyme, hein, L'Exorciste, qui avait été écrit par William Peter Blatty. Blatty, d'ailleurs, qui a signé le scénario du film, hein, c'est le même. Donc, l'auteur du roman, c'est celui qui signe le scénario. Donc, il pourrait pas dire « j'ai pas aimé l'adaptation de mon roman », puisque c'est lui qui l'a adapté. Mais c'était basé sur une histoire vrai. Hein? En 1949, au début de 1949, on est à peu près au fin février, début du mois de mars, il y a des événements mystérieux qui vont se produire dans une maison en banlieue de Washington, D.C. et éventuellement, cette famille-là va déménager à Saint-Louis où éventuellement il y aura un rituel d'exorcisme et tout ça va faire la manchette des journaux. Il va y avoir une indiscrétion par l'un des prêtres impliqués et puis l'histoire va sortir dans les journaux. Mais on comprend que en 1973, plus personne ne se rappelait de ce fait divers de 1949. Mmh. Et il a été ramené sur le devant de la scène par une espèce d'indiscrétion de l'auteur lui-même lors d'une entrevue. William Peter Blatty, qui avait écrit roman et adapté le scénario pour le film, lors d'une entrevue avec des journalistes, on lui dit « Mais mon Dieu, quelle histoire épouvantable! Où vous avez épuisé votre inspiration? » Et Blatty répond du tac au tac, il dit « Ben moi, j'ai pas vraiment tout inventé cette histoire-là, je l'ai réadaptée pour la rendre plus actuelle, mais lorsque j'étais étudiant à l'université de Georgetown, un prêtre qui avait côtoyé les autres prêtres impliqués directement dans l'exorciste, lui avait raconté cette histoire-là et il avait fait quelques recherches, avait retrouvé des articles de journaux de l'époque et s'était inspiré de cette histoire-là pour écrire son roman qui éventuellement était adapté au cinéma. » Mais quand le film est sorti, encore là, je suis en train de faire un énorme détour, mais quand le film est sorti au cinéma, le film n'a jamais en L'Exorciste, même si aujourd'hui, si on arrête les gens dans la rue et on leur demande, oui, le film L'Exorciste, 9 personnes sur 10 pourront te dire, c'est un film qui a été adapté d'une histoire vraie. On le sait, ça a été largement médiatisé. Mais lorsque le film apparaît, prend l'affiche en 1973, personne ne le sait. Et mis à part cette indiscrétion de William Peter Blatty qui va informer les gens, le film ne sera jamais commercialisé de cette manière-là. Il faudra attendre un peu plus tardivement, quelques années après, parmi les premiers films d'horreur qui vont sortir au cinéma. Et là, on va commencer à exploiter cette notion d'après une histoire vraie. C'est vraiment 1976 ou 77 lorsque va sortir le film Amityville. On a eu toute une saga des Amityville 1, 2, 3, 4, 5, remake 1, 2, 3. Là, on a fait des remakes. Mais lorsque le film Amityville, La Maison du Diable, qui mettait en vedette originalement Margot Kidder et James Brolin, lorsque le film sort au cinéma, là, on va exploiter la notion de d'après une histoire vraie. Mais ce n'est pas encore la norme. Plein d'autres films vont sortir au cinéma basés sur des histoires vraies sans que pour autant on les associe à l'événement qui les ont inspirés. Et c'est le cas de notre histoire de ce soir. 1982, Steven Spielberg va sortir son film. En fait, il n'est pas le seul, je pense qu'il est le producteur délégué sur le film Poltergeist, 1982, un grand classique du cinéma d'horreur. Mais à aucun moment, lorsque Poltergeist prend l'affiche au cinéma, dont on a fait un remake il y a quelques années, lorsque le film sort au cinéma, à aucun moment, on nous dit « c'est basé sur une histoire vraie ». Et en effet, Poltergeist est basé sur une histoire d'un poltergeist qui à son époque, avait énormément alimenté la presse. On parle de la presse de New York. C'est un événement qui s'est produit à Seatown, sur Long Island, donc en banlieue de New York. Et à l'époque, la presse avait énormément parlé de cette histoire de poltergeist. Un poltergeist qu'on avait surnommé Popper. Donc, je vais expliquer pourquoi on l'avait appelé Popper. Mais cette histoire-là, en son temps, avait énormément alimenté la presse de l'époque et puis elle était retombée dans l'oubli. Ce sont des gens qui vont la récupérer, qui vont la remettre au goût du jour et à partir de là, Spielberg et ses acolytes vont s'en inspirer pour faire le film Poltergeist qui va sortir sur les écrans en 1982. Donc, c'est une histoire, somme toute, oui, très connue parce que on, la plupart d'entre nous avons vu Poltergeist, mais en même temps très méconnu parce que la plupart d'entre nous, la plupart des téléspectateurs ou des cinéphiles ne savent pas que cette histoire-là a été inspirée d'un véritable cas de Poltergeist et c'est de ce cas-là que je vais parler ce soir.
On en reparle au retour de la pause, mais tout juste avant, on a le temps, on va skipper tout ce qui est actualité, Christian, tu comprendras, avec le nouveau format s'adapter avec le 60 minutes.
Oui, c'est ça, écoute, c'est une nouvelle formule, puis on arrive un peu difficilement à s'y adapter, mais vas-y,
de quoi tu
veux que je te parle?
On va aller tout de suite dans le bloc divertissement. Tu voulais nous parler d'un documentaire sur Netflix, Survivre à la mort. Est-ce que c'est les témoignages de gens qui prétendent avoir vu soit une lumière au bout du tunnel ou avoir vécu une expérience proche de l'entre-deux? Monde.
Bon, avant d'aller à la pause, on pourra faire entendre aux gens la bande-annonce.
Oui.
Mais je vais quand même te parler du documentaire. C'est un documentaire qui est sur Netflix, qui s'intitule, comme tu l'as mentionné, Survivre à la mort. C'est un documentaire, c'est une série documentaire en 6 épisodes. Le premier épisode est sur les expériences de mort imminente. On en a souvent parlé ensemble. Donc, ce sont ces gens qui, au seuil de la mort, disent avoir vu une espèce de vision de l'au-delà. Ils se sont vus sortir de leur corps, amener dans une... très souvent, ils vont parler d'un tunnel ou d'un voyage. Donc, ce sont les expériences de mort imminente. Ensuite, on a 2 épisodes qui sont consacrés au médium, un épisode consacré aux communications après la mort, un autre qui s'appelle Vision et le dernier, Réincarnation. Sur les 6 épisodes, je te dirais que celui sur les expériences de mort imminente et sur celui de la réincarnation, il y a des témoignages qui sont très touchants, qui sont très troublants, particulièrement dans le cas des expériences de mort imminente ou de réincarnation. Donc, ces deux épisodes-là méritent qu'on les regarde. Pour ce qui est de l'histoire des médiums et des communications avec l'au-delà, je dois t'avouer que ça, j'ai trouvé ça peut-être parce que c'est un biais personnel.
Okay.
J'ai tellement côtoyé les médiums que je suis plus capable d'entendre ce discours-là. Tu sais, c'est un ridicule. Tu sais, des gens qui se réunissent dans une salle, puis là, le médium est en avant, puis il va à la pêche. Tu sais, y a-t-il un John dans la salle? Je vois un John. Écoute, aux États-Unis, là, tu prends une salle de 10 personnes, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui avait un parent qui s'appelait John qui est mort.
C'est ça, c'est John ou Chris.
Oui, c'est ça. Il y a un John. Puis là, c'est à la pêche. Je le vois, là. Il aimait pas trop qu'on se mêle de ses affaires. Écoute, tu dis ça à n'importe qui, puis il va dire oui. Tu sais, je veux dire, mon père, ton père, n'importe. Tu sais, c'est vraiment de la pêche, c'est du n'importe quoi. Et
okay.
Là, on nous joue des violons derrière. Oui, c'est l'amour des défunts qui nous revient, l'amour de l'au-delà, l'amour. J'ai bien de la misère avec ce discours-là. Et ce que l'on voit, et c'est même un peu pathétique dans ces épisodes, on voit des gens qui ont envie de maintenir le lien avec les proches décédés. On voit un homme qui dit « Moi, mon père est décédé. » Et on voit le lien affectif qu'il avait avec son père. Il cherche ce lien-là. On voit un individu qui est troublé, un individu qui souffre de son deuil et qui, malheureusement, et c'est mon opinion, qui se fait exploiter par des médiums sans scrupules, puis là, qui vont à la pêche. « Oui, je le vois, ton père, puis il est content pour toi. » Puis il y a même une médium, à un moment donné, qui fait une communication par ce qu'on appelle une communication par possession. Hein, parce que le phénomène de la possession, généralement, quand on en parle dans le langage courant, on imagine évidemment des possessions diaboliques, mais ce n'est pas ce type d'incorporation. On peut être habité par autre chose que le diable.
Ouais.
Et dans les communications spirites, d'ailleurs, à en croire l'Église catholique, nous sommes tous habités par l'Esprit-Saint. Donc, quelque part, on est tous possédés, mais possédés par l'Esprit-Saint si on est de foi ou d'obédience catholique.
Mais c'est le good guy, là.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est le bon gars. Mais dans le domaine du spiritisme, il y a aussi l'incorporation où des gens vont laisser, semble-t-il, des esprits prendre possession d'eux. Et ils ne sont plus, à ce moment-là, que des canaux. D'ailleurs, on a vu apparaître dans le mouvement spirit lui-même, et particulièrement à la fin des années 1970, un mouvement qu'on appelait le channeling, où des gens canalisaient des entités qui n'étaient pas forcément des défunts. Hein, c'est ce qui différencie un peu le spiritisme du channeling, parce que dans le spiritisme, même lorsqu'il y a incorporation, Le médium a pour discours de dire « je canalise un défunt hein, ». Donc, je canalise Bob qui est mort au 17e siècle et c'est lui, c'est à travers lui que je communique. Mais dans le channeling qui va apparaître à la fin des années 70, bien sûr, il y a des channelers qui canalisent des défunts, mais il y a des channelers qui prétendent canaliser des maîtres spirituels, des extraterrestres, un savoir qui n'a pas forcément connu des incarnations physiques. Donc, il canalise n'importe quoi. Dans le cas présent, dans le documentaire dont on parle, « Survivre à la mort », dans l'épisode 2 et 3 où on a des médiums, ben, il y a une médium qui communique avec les gens autour d'elle en canalisant, semble-t-il, des défunts. Et je dois t'avouer que ces séquences-là, elles sont risibles. Tu sais, à un moment donné, elle change de voix. « Ah oui! » Puis là, elle est canalisée par un petit garçon de 10 ans. « Ah oui, je suis content d'être ici! » Avec une voix infantile. Et à un autre moment donné, elle canalise. Là, elle parle avec une voix de vieille madame. « Oh oui, je suis contente! » Et là, c'est parce qu'elle canalise une vieille dame. Là, tu dis « Écoute, c'est ridicule. Si moi, je me mets à canaliser Elvis Presley demain, est-ce que je vais faire des séances en disant « Yeah, thank you very much! »
Tu sais,
ça devient ridicule, ce changement de voix-là. Tu dis, mais ouais, faut vraiment avoir la foi, le chevillé au corps pour avaler des numéros de vaudeville et d'escroquerie aussi grossiers. Que des gens puissent communiquer avec des défunts, je le sais pas. Que les défunts existent et soient autour de nous, je le sais pas. La science n'a pas non plus ces réponses-là. Mais que des gens commencent à canaliser des gens comme cela, ou bien on est dans une condition de maladie mentale, des gens qui se sont désillusionnés, qui croient à leurs histoires, ou bien on est dans la fraude pure et simple. Mais quand tu vois cette madame-là, une dame d'âge moyen, je te dirais dans la quarantaine, qui prend cette voix infantile pour parler parce qu'elle canalise une enfant, ou une voix un peu chevrotante parce qu'elle canalise une vieille dame. Ça me paraît là, mais grossier et ridicule. Donc, il y a quand même des bons moments. Il y a un moment, je crois, c'est dans l'épisode des Medium 2. Je te dirais, moi, dans ma carrière d'enquêteur du paranormal, parmi les choses les plus spectaculaires que j'ai vues dans ma vie, c'est ce qu'on appelle les moulages spirit.
Ouais.
Je n'entrerai pas dans le détail, j'en ai déjà parlé dans les Radio X-Files, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais à une époque, lorsqu'il y avait, je t'ai parlé un petit peu plus tôt, de ces médiums qui faisaient des manifestations physiques, des tables qui tressautaient, des meubles qui se renversaient, des bougies qui étaient soufflées, il y avait également des médiums qui pouvaient produire ce qu'ils appelaient, eux, de l'ectoplasme, donc une espèce de substance qui pouvait sortir de leurs orifices, hein, le nez, la bouche, les oreilles, et en fait, tout ce que tu peux imaginer comme orifice.
Ben oui.
Et c'était une espèce de substance un peu volatile, brumeuse, qui pouvait prendre forme autour d'eux. Bon, ça sentait l'escroquerie, là, soyons honnêtes. Mais au début du 20e siècle, à Paris, on avait une société qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'Institut Métapsychique International, qui a reçu notamment un médium. On est en 1919, il s'appelle Franek Klauski. Et Klauski avait la prétention de pouvoir produire des ectoplasmes. Sans entrer dans le détail, parce qu'on en aurait pour 2 heures, ils pouvaient produire des effets comme ceux-là. Et on a réussi à en faire des moulages. Hein. Ils produisaient des mains, des pieds autour de lui. On a fait des moulages de ça. C'est une des... Et certains de ces moulages-là, il y en a 7 ou 8 qui existent encore aujourd'hui, qui sont conservés dans les archives de la Société Métapsychique à Paris. On a reçu dans la 2e ou 3e saison des Radio X-Files. On avait reçu, on avait comme invité Mario Varvoglis, qui dirige la société, et on avait justement parlé de ces moulages spirit. Mais dans le deuxième ou troisième épisode de cette série, Survivre à la mort, il y a une courte séquence, mais mon Dieu, que ça vaut la peine, une courte séquence d'une dizaine de minutes où on entre à l'Institut Métapsychique à Paris, puisqu'on parle de ses communications avec l'au-delà, et Mario Varvoglis, qui est là, qui a pris quand même un petit coup de vieux, je dois l'avouer. Mais qui est là, qui nous parle de ces moulages spirit et il nous les montre. Il sort les boîtes, les déballe et il nous sort les moulages spirit. C'est très spectaculaire parce que ces moulages, ce sont des moulages, et d'ailleurs Mario Varvoglis l'explique très bien dans le documentaire, ce sont clairement des mains et des pieds. Bon, les pieds, on en a moins, mais je pense qu'on a 4 ou 5 moulages de mains. On voit bien que ce sont des mains d'adultes, de gens, je te dirais, d'âge moyen. On le reconnaît par la forme des jointures, le plissement de la peau. Mais ce qui est très particulier, c'est que ces moulages-là ont la taille de mains de jeunes enfants, je te dirais de 7 ou 8 ans. Donc, tu t'imagines un moulage d'une main d'une personne d'âge moyen, mais qui a la taille de la main d'un enfant de 10 ans.
Oui.
Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé le moyen de reproduire ça. Donc, bien sûr, si tu me poses la question, en privé, que personne n'écoute,
oui,
je vais te dire, Camille, je suis pas mal sûr qu'il devait y avoir une fraude. J'ai peine à croire que Franek Klauski pouvait produire des ectoplasmes qui acceptaient de mettre leurs pieds et leurs mains dans de la paraffine fondue. Ça me paraît un peu invraisemblable. Néanmoins, je l'avoue, je n'ai jamais trouvé d'explication à ça et personne n'en a jamais trouvé. On a essayé autant comme autant de reproduire ces moulages-là sans y parvenir et on sait que les moulages étaient produits durant les séances. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais peut-être que Klauski faisait les moulages à l'extérieur, les introduisait dans le laboratoire en catimini et là, durant la séance spirit, qui durait une vingtaine de minutes, sortait de sous sa veste, sortait le fameux moulage et dupait les gens de cette manière-là. Non, à son insu, par exemple, lorsqu'il y avait le bac de paraffine devant lui, on a mis, par exemple, des substances, du bleu de méthylène, on a mis du cholestérol dans la paraffine, et après que le moulage était produit, lorsqu'on a analysé la cire, on a retrouvé ces marqueurs-là, des marqueurs qui ont été ajoutés à la dernière seconde lorsque les portes étaient barrées. Tu comprends? Donc,
oui.
Klauski n'aurait pas pu faire le moulage à l'extérieur et l'amener dans le laboratoire. Ça s'est produit et on n'a pas réussi à reproduire ça. Donc, même si de toi à moi, en privé, je me dis, il doit y avoir un truc. Je ne l'ai pas trouvé, ce truc-là. Et ça reste pour moi, dans toutes ces années, ça fait un peu plus de 45 ans maintenant que je suis dans cet univers-là, c'est les moulages spirites de l'Institut métapsychique à Paris sont parmi les choses les plus renversantes qui m'aient été données de voir. Et ne serait-ce que pour ce court segment d'une dizaine de minutes dans cette série « Survivre à la mort », épisode 3, je crois, ça vaut la peine d'être vu pour voir de visu ces moulages-là et de voir comment Mario Varvoglis les sort de leur contenant et les déploie, les fait tourner devant la caméra. C'est merveilleux.
Et même le premier épisode, je me souviens très graphiquement de l'avoir vu, les expériences de mort imminente. Je crois que ce sont des témoignages qu'on peut recevoir de notre propre famille quand il y a des accidents, malheureusement, des gens qui se retrouvent à l'hôpital. Là, il y a des histoires comme ça, là, similaires, on en entend. On va laisser les auditeurs écouter la bande-annonce. C'est à voir absolument. C'est une recommandation également de mon côté. Et Christian, toi, à part peut-être quelques petits doutes...
Le premier épisode sur les expériences de mort imminente et l'épisode sur la réincarnation, donc le premier et le dernier épisode de cette série de 6, valent le détour. Ça, je le recommande aussi. D'ailleurs, les expériences de mort imminente, comme tu le dis, une des expériences qui est racontée, elle est racontée par un médecin qui a vécu une mort imminente pendant une quinzaine de minutes. Elle s'est noyée et elle raconte ça. Elle utilise le jargon médical pour expliquer pourquoi ce n'est pas possible qu'elle ait imaginé cette expérience-là. Ça, c'est vraiment très troublant et il y a des témoignages qui sont aussi très touchants. Donc oui, à voir à tout le moins le premier épisode et le dernier épisode de cette série « Survivre à la mort ».
Voici la bande-annonce. Courte pause au retour. On parle de Poltergeist.
The question of what happens after we die has intrigued humans for as long as we've been around.
As a physician, I know that most people don't think about death really until they're forced to.
Her brain was not functioning, and yet she had the most vivid experience.
My near-death experience changes how I understand death.
We think these people, they're gone, but they're always watching after us.
Someone said, "What is your name?" This thing is talking to us.
The first story that Ron ever told, he said, "Mom, I think I used to be somebody else."
Extraordinary claims require extraordinary evidence. This is the biggest claim ever.
I don't believe we know everything.
Their loved one from the other side is there helping them cross over.
These signs and messages are always around us.
I would say, send me a cardinal when you get to heaven.
I can't explain it, but I know it was him.
If this is real, people should know. It'd change everything.
I think I'll be asking questions till the day I die. Again.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
Un feu roulant, ce show-là, Christian. Ça va extrêmement vite à 19h42. On parle de poltergeist, de popper, pour être plus précis.
Oui, je vais me faire préciser, juste avant qu'on se quitte pour la pause, on a entendu la bande-annonce de la mini-série Survive à la mort.
Oui.
La bande-annonce était en anglais, mais je rassure les auditeurs, la série est disponible en français sur Netflix.
Bien sûr, votre Netflix est déjà en français pour la majorité des séries. Vous allez pas mal l'avoir en français également.
Effectivement, on parle poltergeist. Le poltergeist, tu l'as bien nommé, popper. Hein? Il est connu dans les milieux de la parapsychologie comme popper le poltergeist ou encore le poltergeist de la famille Hermann. Notre histoire nous renvoie en 1958. La famille Hermann, c'est une famille plutôt aisée, respectée et, comme disent les journaux, de bons catholiques. Hein? C'est très important à l'époque, des bons catholiques.
Oh oui.
Donc, la famille Hermann, on compte 4 membres. On a James Hermann, il a 43 ans. C'est un ancien militaire et au moment des faits, il travaille comme conseiller pour la compagnie Air France. Donc, Air France a des bureaux à New York et lui est conseiller pour la compagnie Air France. Il a sa femme, Lucille, qui a 38 ans et ils ont 2 enfants. Ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'imagination. Lui s'appelle James, sa femme s'appelle Lucille. Ils ont des enfants, qui est un garçon et une fille. Devine comment s'appellent leurs enfants? Ben, Lucille Junior et James Junior.
Oh my God, quelle originalité!
C'est extraordinaire. Oh. Donc...
Ah non, mais moi, ça me fait, là, Christian. C'est des gens qui veulent pas mourir, en fait.
Oui, c'est ça, tu sais. Fait que mon fils s'appelle James. Dans certains cas, même si t'as James 3e du nom ou James 4e du nom, là, c'est de père en fils, on s'appelle James. Donc, dans le cas présent, donc, on a James et Lucille, les parents, et les enfants, Lucille et James également. Donc, les événements dont je te parle se passent dans la maison à Seaford, qui est une petite ville de Long Island. L'adresse est le 1648 Redwood Path. Et c'est une maison, un plein pied, un bungalow assez ordinaire, qui est de construction récente. Hein? Il a été construit un an ou deux avant, et voilà que les Harman y emménagent. Donc, il n'y a pas d'histoire sordide associée au lieu. Oui, des gens seraient décédés dans la maison ou quoi que ce soit du genre. Donc, tout ça est relativement neuf. Et voilà que le 3 février 1958, alors que Mme Hermann est à la maison avec les 2 enfants, il est à peu près 15 heures. Ça, c'est une des versions. Je sais qu'il y a plusieurs versions qui ont circulé dans les journaux, mais la version la plus souvent rapportée dans la presse et après dans la littérature, c'est le 3 février vers 15 heures, alors que Mme Hermann et les enfants sont à la maison. Ils se mettent à entendre à travers toute la maison, assez rapidement, des pop. Hein, ça pop, 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 pop. Et là, Mme Hermann fait le tour de la maison et elle va découvrir une dizaine de bouteilles dont les bouchons ont sauté. Mais pas seulement des bouchons qui ont été capsulés sur le dessus de la bouteille, même des bouchons qui se vissaient ont littéralement été popés de la bouteille. Et plusieurs de ces bouteilles ont été renversées, leur contenu se déverse. On parle à peu près de toutes sortes de produits, autant de shampoings que de produits de nettoyage.
OK.
Mais tu comprends que dans la chambre de Mme Hermann, on trouve une bouteille d'eau bénite dont le bouchon a été popé, un bouchon qu'on dévissait de la bouteille. Et l'eau se répand sur le bureau, donc il fait comme c'est de l'eau bénite. On se dit oh, il doit y avoir un mauvais présage. Mais c'est vrai aussi avec la bouteille de shampoing, puis c'est vrai également avec la bouteille d'eau de Javel. Puis mais la bouteille d'eau bénite, ça attire beaucoup l'attention. Et là, très rapidement, Madame Hermann fait le tour de la maison, voit les bouteilles, elle appelle son mari. Bon, elle replace les bouchons, elle appelle son mari, elle en discute avec lui, comme aucune vie n'a été menacée ou est en danger. Donc, Monsieur Hermann dit, je vais voir ça quand je vais arriver à la maison. Lorsqu'il rentre, il fait le tour de la propriété, il ne trouve pas trop d'explications pourquoi les bouchons ont sauté de cette manière-là. Et pendant 2 ou 3 jours, rien d'autre va se produire. Et puis voilà qu'après 72 heures, à nouveau, Mme Hermann est à la maison, les enfants, M. Hermann est au travail, les bouchons se mettent à sauter à nouveau, on est en fin d'après-midi, et là encore, on fait le tour du propriétaire, on voit ces bouchons qui ont sauté, et là, évidemment, c'est très curieux, Mme Hermann en parle encore à son mari au retour du travail, et le samedi suivant, alors que M. Hermann est dans la salle de bain, son petit garçon, James Junior, est en train de se brosser les dents, M. Hermann est là avec lui, et il voit de ses yeux des bouteilles qui se renversent et des bouchons qui vont popper. Alors là, évidemment, il est très surpris par ce qu'il voit. il va éventuellement... Comment, à qui doit-on parler de bouteilles qui se renversent et des bouchons qui sautent? Alors, ouais. Il décide, est-ce qu'on en parle au curé? Est-ce que j'en parle à mes voisins? Et M. Herman aura le réflexe d'appeler plutôt la police. Donc, il appelle la police, explique ce qui s'est passé. Les policiers, et là, bon, c'est la police du comté de Nassau, donc un des comtés importants de Long Island, qui vont envoyer un détective, un policier, d'abord un patrouilleur, qui va se rendre sur place.
Déjà, ils l'ont pris au sérieux assez pour emmener quelqu'un sur place.
Oui, mais M. Herman, il faut quand même le mentionner, c'est une famille aisée qui sont reconnus dans leur communauté des bons chrétiens.
J'insiste, des bons chrétiens.
Mais ce sont des gens qui sont quand même des piliers de la communauté. Donc, ils sont respectés et on voit mal M. Herman ou Mme Herman prendre part à un canular de cette manière-là. Donc, assez rapidement, on envoie un patrouilleur qui prend leur déclaration. L'histoire va monter en haut lieu et puis éventuellement, on va même charger un détective de cette histoire-là, les bouteilles qui pop chez les Herman, il y a quelque chose de mystérieux et c'est le détective Joseph Todzi qui va être chargé de l'enquête. Dans les jours qui vont suivre, parce que je sais que le temps file à grande vitesse, puis on a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission, mais au cours des jours qui vont suivre, l'histoire ne se limitera pas qu'à des bouchons qui popent des bouteilles, qui vont d'ailleurs, bon, parce que l'histoire va déborder également, les journaux vont en parler, l'histoire déborde d'abord de Seaford, ensuite on en parle partout sur Long Island et ça atteint des grands médias de New York, même des journaux comme le New York Times vont parler, hein, de ce poltergeist, et d'ailleurs c'est le New York Times qui va le surnommer Popper, hein, parce qu'il fait popper les bouchons des bouteilles. D'où le nom, le Popper, mais ça ne se limite pas qu'il y a des bouchons qui sautent. Assez rapidement, il y aura des objets également qui vont être lancés au travers des pièces, des meubles qui vont se renverser. Et là, c'est une espèce de cirque. À partir du 16 février, il y a un prêtre qui va même se rendre chez les Herman et il va bénir chacune des pièces en lançant de l'eau bénite dans chacune des pièces, en décrivant le signe de la croix. Et à cause de la médiatisation de l'événement, des gens vont se réunir à l'extérieur de la maison des Herman, parce que bien sûr, l'adresse est communiquée dans la presse. On affiche le très clairement que c'est le 1648 Redwood Path. Donc, les gens s'annoncent devant la maison. On espère assister à des phénomènes mystérieux. Certains vont jusqu'à frapper à la porte des Herman en disant « Je crois avoir une explication. » Et ça va dans tous les sens. C'est le diable, c'est des revenants. Et il y a aussi des explications. On tente également des explications plus rationnelles. Il pourrait y avoir de l'énergie électrique magnétique, de l'air dans les tuyaux, les ondes radio, des camions lourds qui pourraient passer devant la maison des Herman, la vibration qui pourrait faire renverser les bouteilles, le passage d'avion, parce que la maison des Herman à Seaford se trouve sur le passage d'une ligne aérienne. Donc, est-ce que des avions qui passent au-dessus de la maison des Herman pourraient créer une vibration qui ferait renverser les bouteilles? Donc, entre les explications un peu fantaisistes, c'est le diable ou c'est n'importe quoi, et les explications plus rationnel, on cherche une explication, on n'en trouve pas. Et éventuellement, on a deux parapsychologues, et pas les moindres, hein, dont l'un s'appelle William Roll, qui est un parapsychologue très connu aux États-Unis à cette époque, et qui représente le G.B. Ryan Center for the Psychical Research, qui est associé à l'Université Duke, en Caroline du Nord. Il faut savoir que les années 50 et les années 60, il y avait de très nombreuses universités tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, qui avaient leur propre département de recherche en parapsychologie. Avec les années, le milieu universitaire a pris ses distances par rapport à la recherche en parapsychologie. Donc, les laboratoires sont devenus plus indépendants, même si certaines universités ne cachent pas leur lien avec certaines universités. C'est le cas, par exemple, encore aujourd'hui, du Centre de recherche en parapsychologie G.B. Rhines, dont faisait partie William Roll, qui était à l'époque associé à l'Université Duke. Aujourd'hui, il est indépendant, mais l'Université Duke, en Caroline du Nord, reconnaît avoir une filiation avec ce centre de recherche en parapsychologie. Donc, bref, les parapsychologues débarquent sur place. C'est pas, faut bien s'entendre, à cette époque, bien sûr, il y a toutes sortes d'illuminés avec des tuques en papier d'aluminium, mais il y a également des scientifiques très rigoureux, et c'est le cas, par exemple, de ces scientifiques du centre Rhine qui débarquent sur place. Pourquoi le G.B. Rhine donne simplement un aparté parce que le père de la parapsychologie expérimentale, c'est un Américain qui s'appelait James Bank Ryan. Donc, c'est pour ça que son nom est associé au centre de recherche. Donc, ces gens-là débarquent chez la famille Harman, cherchent des preuves d'une mystification, d'une manipulation. Ils n'en trouvent pas et ils vont déclarer à la presse qu'ils sont persuadés que les phénomènes qui se passent chez les Harman est un authentique cas de poltergeist. Mais il faut s'entendre que dans le cas de poltergeist, même si le mot, si on le traduit en français, c'est un mot allemand qui veut dire esprit frappeur, les parapsychologues ne voient pas forcément l'intervention d'un esprit, d'un défunt. L'explication généralement proposée dans l'univers de la parapsychologie, c'est que ces phénomènes sont déclenchés par les vivants. Et dans le cas présent, ou dans la plupart des cas en parapsychologie où on a eu des cas de poltergeist, il y avait au centre des manifestations, il y avait un adolescent ou une adolescente qui avait des troubles émotifs. Et c'est le cas, dans le cas Herman, on a exactement cette dynamique-là. Même interrogé à un moment donné par, bon, Monsieur Herman, je l'ai mentionné, c'est un ancien militaire. Il dirige la famille d'une main de fer avec une discipline littéralement militaire, très, très stricte. Même à un moment donné, dans toute cette saga, lorsqu'on va interroger le jeune Herman, James Junior Herman, dit Jimmy, qui est âgé, je te le rappelle, de 12 ans, lorsqu'il va être interrogé par des psychologues, il va dire clairement qu'il fantasme de voir son père mourir, de faire assassiner son père. Donc, on voit un peu la dynamique. Ce n'est pas une famille qui a une parfaite dynamique aimante.
Christian, bons chrétiens.
Mais t'as raison. Ce sont des bons chrétiens. Donc, on a cette dynamique-là et eux croient, la parapsychologie, l'hypothèse qu'on propose, c'est que cet adolescent ou adolescente qui se trouve au milieu des manifestations, qu'on appelle d'ailleurs l'agent du poltergeist, c'est lui qui inconsciemment produirait ses effets autour de lui, coups frappés dans les murs, bouteilles qui se renversent, meubles qui bougent, un peu à la manière, tu as probablement vu le film Carrie, qui est adapté du roman de Stephen King. Dans le film Carrie, que ce soit l'original des années 70 ou le remake qui a été fait, lorsque les coups sont frappés dans les murs ou que les objets bougent, ce ne sont pas des fantômes ou des revenants qui font ça, c'est Carrie qui, par un espèce de mécanisme incontrôlé de télékinésie, au début, c'est incontrôlé, elle déplace des objets autour d'elle, elle va apprendre de mieux en mieux à le maîtriser. Ça, c'est la trame du roman et du film. Mais dans les cas de poltergeist, c'est l'hypothèse que l'on développe. Donc, des phénomènes de télékinésie qui seraient produits par l'agent du poltergeist de manière inconsciente. Autrement dit, le gamin, au lieu de donner un coup dans le mur parce qu'il est fâché, parce qu'il est perturbé, ben c'est un meuble qui va se renverser, c'est une bouteille qui va popper. Donc ça, c'est l'hypothèse que développent les parapsychologues, qui est rapportée unanimement dans la presse. Et là, donc, oui, les phénomènes de poltergeist sont authentiques, on est en présence d'un véritable cas de poltergeist. Mais ça fait pas l'unanimité. Il y a d'autres scientifiques qui vont se rendre sur place, d'autres chercheurs, qui eux trouvent ça quand même curieux que le poltergeist ne se produise que à proximité du jeune Jimmy. Lorsqu'il est à la maison, les phénomènes se produisent. D'ailleurs, la première journée, il est à peu près 15 heures. Il vient de rentrer de l'école lorsque les phénomènes se produisent. Mais les phénomènes ne se produisent jamais la nuit et les phénomènes ne se produisent jamais lorsque Jimmy n'est pas là. La réponse des parapsychologues, c'est bien sûr, puisque c'est lui qui crée les phénomènes par un pouvoir télékinétique ou psychokinétique, c'est sûr que s'il n'est pas là, le phénomène ne se produira pas. Puis s'il dort, il ne peut pas produire le phénomène, tu comprends? Mais on commence à trouver ça comme... Il y a quand même plusieurs personnes qui soulignent l'étrangeté de la situation et on se demande finalement si Jimmy n'est pas lui responsable, mais tout à fait volontairement des manifestations. Ah. Est-ce que c'est pas lui qui volontairement renverserait les objets, défrait les bouchons sur les bouteilles? Parce que la grande problématique dans les cas de poltergeist, c'est souvent « je sais ce que j'ai vu » ou « c'est ce que je me rappelle qui s'est passé ». Mais on peut difficilement documenter in situ le phénomène. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça? Est-ce que toutes les bouteilles se sont renversées en même temps avant que Madame Herman, le premier jour, les découvre renversées? Ou est-ce qu'elle a entendu un bouchon ou une bouteille se renverser et plus tard dans la journée, elle a vu que d'autres bouteilles avaient été renversées? Donc, on a une espèce de flou avec les événements sur lesquels on ne peut pas revenir de manière objective et critique. Néanmoins, c'est ce phénomène-là est rapporté dans la presse. Le point de vue des parapsychologues ou des chercheurs qui sont plus sceptiques et qui pointent directement du doigt le jeune Jimmy en disant « À notre avis, c'est le gamin qui fait ça et il n'utilise pas un pouvoir psychique pour faire ça. C'est un jeune garçon espiègle. C'est pas Denis la menace, mais c'est Jimmy la menace. Et c'est lui qui renverse les bouteilles, c'est lui qui renverse tous ces objets-là. »
Et en même temps, s'il avait la fascination de voir peut-être son père mourir, c'est la peur qui l'alimentait, là.
En fait, il voulait l'emmerder. Hein, disons les choses. Donc, il renverse. Et là, ça devient comme la famille devient l'objet de toute la fascination du public. Bien sûr que ça agace beaucoup M. Herman, lui, qui est d'une droiture incroyable. L'ancien militaire, il va à l'église, les gens le pointent du doigt dans la rue. On parle de ce qui se passe chez les gens. Ça embête M. Herman d'être soudainement au centre de ces manifestations. Et peut-être que le jeune Jimmy prend un malin plaisir à emmerder papa. Néanmoins, quoi qu'il en soit, le 10 mars, les phénomènes s'arrêtent. Aussi mystérieusement qu'ils sont apparus. Donc, le 3 février, les phénomènes débutent. Le 10 mars, les phénomènes s'arrêtent. Du jour au lendemain, il n'y aura pas d'autres manifestations. Donc, et on ne saura jamais dans quelle mesure quelle était l'hypothèse la plus vraisemblable. Et encore aujourd'hui, c'est un sujet de débat dans les milieux de la parapsychologie. Lorsqu'on parle de cette histoire, ce poltergeist éminemment connu dans les milieux de la parapsychologie, l'affaire Herman, est-ce que c'était le jeune Jimmy qui volontairement cherchait à emmerder papa en renversant des bouteilles, en jetant des objets? Parce que, tu sais, à un moment donné, l'enfant est là à la table, il y a un objet sous la main, une bille, puis il la lance, personne ne voit lancer la bille et la bille va percuter plus loin dans le salon un objet. On dit, on a entendu un bruit de claquement, mais Jimmy n'était pas dans la pièce où le phénomène s'est produit. Non, mais il était quand même présent dans la maison. Donc, un garçon avec un peu d'imagination, espiègle, aurait pu produire ces effets-là sans avoir recours à quelques phénomènes mystérieux ou paranormaux. Mais d'un autre côté, l'hypothèse développée par les parapsychologues, on doit la considérer. Est-ce que on a une dynamique qui est tout à fait propre à ce type de phénomène? Donc, des enfants et un garçon en particulier, dans un environnement trouble, il a des problèmes émotifs et soudainement, c'est comme si la matière se mettait au diapason de ses émotions. On doit quand même la considérer. Il faut quand même aussi retenir que si on considère cette hypothèse du poltergeist et de l'énergie psychique qui se manifeste en renversant des objets ou en cognant dans les murs, il faut quand même se dire que l'énergie psychique n'a jamais été démontrée. C'est beau, lorsque les parapsychologues en parlent, il faut absolument mettre un terme, une étiquette sur quelque chose. Donc, si un objet est renversé ou il y a un coup frappé dans le mur, il doit bien y avoir de l'énergie. Hein. C'est les lois de la physique. Un objet ne peut pas se déplacer, ne peut pas être renversé s'il n'y a pas une force, entre guillemets, qui le renverse. Et cette énergie-là, les parapsychologues utilisent le mot énergie psychique. C'est le mot consacré. Mais dans les faits, on n'a jamais démontré que l'énergie psychique existait. On n'a pas d'appareil pour démontrer l'existence de cette énergie. Et dans des centres de recherche, prenons par exemple le grand collisionneur de Hadron, qui est sur la frontière de la Suisse et de la France, où on a réussi à isoler des particules quasi qui ont des durées de vie du milliardième de seconde, le boson de Higgs ou peu importe. On n'a jamais vu l'énergie psychique, on ne l'a jamais captée, on ne l'a jamais détectée. Donc, c'est bien quand ça donne un peu un discours scientifique. Ah oui, c'est de l'énergie psychique qui résonne dans le mur. Mais dans les faits, on ne sait pas si l'énergie psychique existe.
Ça ne reste qu'une hypothèse, Christian.
Donc, voilà, ça reste une hypothèse développée par les parapsychologues sur laquelle on doit encore plancher. On a quand même réussi à isoler un environnement propre à ce type de phénomène. Le phénomène de Popper, le poltergeist, ou le poltergeist de la famille Herman, correspond bien à cette dynamique familiale, mais on est incapable de dire de manière certaine s'il s'agissait d'un phénomène paranormal ou d'une simple mystification gérée par un gamin particulièrement espiègle et imaginatif. Quoi qu'il en soit, l'affaire Hermann va éventuellement trouver son chemin dans la littérature et en 1982, elle deviendra le canevas pour le film Poltergeist de Steven Spielberg.
Super intéressant. Encore une fois, Christian, un gros merci d'être avec nous à tous les soirs maintenant à partir de... En fait, à partir de maintenant, pour ceux qui se demandaient si c'était commencé cette saison-là de Radio X-Files, on a déjà la moitié de la semaine de fait. On se retrouve demain à 19h pour une autre thématique.
Puis je constate que j'ai brisé mon temps encore une fois. Je suis désolé, Camille.
Il n'y a pas de problème. C'est pardonné. On se dit à demain, Christian. Bonne fin de soirée.
À demain. Bonne fin de soirée à toi aussi.
Merci. Bye-bye.